Maintenant, on va parler de Lucy in the Sky, en tout cas parler de la drogue et de son institutionnalisation. Nous sommes en compagnie de Bertrand Lebeau-Lebovici, médecin addictologue. Bonjour. Et de Gaspard Koenig, vous publiez ce dimanche un rapport important signé par le think tank Génération Libre où vous évoquez le cannabis et sa légalisation. J'ai dit que la France faisait cavalier seul. Disons qu'on est un peu en train de pédaler en sens inverse de la marche, n'est-ce pas, Gaspard Koenig?
Oui, oui, on en a parlé sur le projet de contraventionnalisation qui renforce la répression au lieu d'ouvrir un débat qui pourtant avait émergé dans la campagne présidentielle et qui semble, selon les derniers sondages, relativement possible dans l'opinion. On a une majorité, une petite majorité, une grande minorité. Enfin, en tout cas, les gens sont prêts à en débattre aujourd'hui.
À rebours, en tout cas, donc, d'un grand nombre de pays qui libéralisent, à rebours de ces agriculteurs qui font la une du Parisien aujourd'hui, puisqu'ils veulent, nous dit le Parisien, faire pousser du cannabis. Oui, d'où la question que je vais vous poser, Bertrand Lebeau-Lebovici, tout cela est-il bien raisonnable? A-t-on raison de considérer que le cannabis est une drogue douce?
Écoutez, je le crois. Alors, je sais bien que cette expression « drogue douce », elle a un peu vieilli. Mais c'est certainement une substance qui est beaucoup moins dangereuse que l'alcool. Je pense que si vous cherchez aujourd'hui un addictologue qui vous soutiendra que l'alcool est une substance moins dangereuse que le cannabis, présentez-la moi, je serai très heureux de discuter avec elle. Mais vous me permettez une remarque, je suis très heureux que les libéraux, à travers Génération Libre, aient fait savoir qu'ils étaient partisans d'une réforme en matière de politique de drogue, parce qu'il y a une très ancienne tradition libérale sur les questions de prohibition des drogues. Ça commence avec Stuart Mill il y a longtemps, l'économiste Milton Friedman a été un grand partisan de la légalisation. Il considérait que la prohibition était une entreprise soviétique, c'est-à-dire à la fois despotique et inefficace. Et lorsque dimanche j'ai ouvert le JDD et que j'ai vu en plus sous la plume de deux amis, c'est-à-dire de Francis Caballero et de Amin Benyamina, que Génération Libre et Gaspard Koenig se positionnait en faveur de la légalisation du cannabis, je me suis dit, eh bien, c'est normal que les libéraux prennent cette position, parce que c'est une très ancienne tradition qui avait été désertée en France.
Et c'est peut-être une raison de plus pour être antilibéral, tout simplement parce que on peut aussi considérer que nous sommes là pour nous soucier du bien-être d'autrui, autrement dit pour avoir une attitude infiniment moins individualiste et dans la manière qu'on a de régir une société, même si du point de vue de l'addictologue que vous êtes, Bertrand Lebeau, eh bien il y a effectivement moins de nocivité dans la consommation de cannabis que dans l'alcool. On peut aussi considérer qu'on a vu des gens dans des états parfois pas très recommandables parce qu'ils consomment de manière régulière, quotidienne, du cannabis.
Oui, tout à fait. En particulier, un des problèmes auxquels on est confronté et que ne résolvent pas pour des raisons évidentes, d'ailleurs, les États américains qui ont légalisé le cannabis à des fins récréatives, c'est la consommation des mineurs. Oui. Il est certain que le fait d'aller en classe et de fumer un joint sur le trajet qui vous mène à l'école pour assister aux cours de maths, c'est pas une très très bonne idée. Et qu'il y a malheureusement un lien compliqué entre la consommation lourde de cannabis et la déscolarisation. Donc ça soulève un certain nombre de questions. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en gros, on est dans une situation où on a tous les inconvénients de la prohibition sans avoir aucun des avantages de la légalisation. C'est-à-dire on perd sur les deux tableaux. Et c'est cette situation qui doit changer. Elle changera. C'est absolument certain. L'Europe va changer et c'est pas la peine que la France soit la dernière.
Gaspard Koenig, quand on vous accuse finalement d'avoir une attitude individualiste, c'est-à-dire de ne pas vous soucier du bien-être d'autrui en légalisant un produit dont vous savez que la consommation à forte dose est nocive, que répondez-vous ?
D'abord, je réponds que, puisqu'on cite John Stuart Mill, et à juste titre, puisque c'est un des premiers qui, dans On Liberty, a parlé de ce qu'on appelait pas encore vraiment les drogues, et John Stuart Mill a des propos extrêmement clairs. Il dit déjà à l'époque que c'est à condition que le consommateur soit informé. Ça veut dire deux choses. John Stuart Mill, chez John Stuart Mill, il y a le harm principle, le principe tout simple, qui est également dans notre déclaration des droits de l'homme, que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et moi, je m'en reste, je suis désolé d'être un peu basique, mais j'en reste à cette définition très simple. Vous avez le droit de faire ce qui ne nuit pas à autrui. Quand vous ne vous nuisez qu'à vous-même, vous en prenez les responsabilités. Quand quelqu'un fume du cannabis dans sa chambre, il ne nuit qu'à lui-même. Si tant est qu'il nuise à lui-même, il ne nuit qu'à lui-même. Il ne nuit pas, il ne cause pas de tort à ses semblables. Donc j'inverse l'argument. C'est pas est-ce qu'il faut être contre pour la légalisation. C'est pourquoi être pour la prohibition dans la mesure où elle ne fait de mal à personne d'autre. Et deuxièmement, évidemment, et ça c'est l'argument utilitariste plus facile, c'est que quand vous légalisez, eh bien vous pouvez justement que vous faites sortir ça au grand jour, vous pouvez faire ce que vous devez faire pour protéger autrui, c'est-à-dire l'informer, vous assurer par toutes sortes de règles sanitaires que le produit est conforme aux standards d'hygiène et de bonne consommation, parce qu'aujourd'hui, vous savez pas, évidemment, quand vous achetez au marché noir, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Au Colorado, il y a une traçabilité qui fait que vous pouvez remonter à la plante, à l'entreprise qui vous l'a fourni. Et donc, quel est le but, du coup, d'une politique de santé publique? Est-ce que c'est de faire baisser la consommation de cannabis? Non. Est-ce que c'est que des gens majeurs, informés, comprenant ce qu'ils consomment et sachant ce qu'ils consomment, puissent faire leur choix? Oui.
Vous allez peut-être un peu trop vite, Gaspard Koenig. Je vais poser la question à Bertrand Lebeau-Lebovici, qui est addictologue. J'ai lu qu'il y avait une probabilité, lorsque vous consommez du cannabis, de développer des maladies mentales dans un second temps, ce qui là, pour le coup, est un problème de santé publique, puisqu'il va falloir que la collectivité vous prenne en charge. Et de la même façon que l'on considère à la fois que ça n'est pas bien pour vous de boire trop d'alcool, mais aussi ça n'est pas bien pour la collectivité de supporter le poids de l'alcoolisme, est-ce qu'on ne peut pas dire, Bertrand Lebeau-Lebovici, qu'il y a là quelque chose dont on doit se soucier?
Alors, c'est une question qui est débattue depuis très longtemps. La première chose qu'il faut dire, c'est que c'est vrai, il y a un certain nombre de personnes qui rentrent dans des maladies psychiatriques graves, de type psychose ou schizophrénie, après avoir consommé du cannabis. C'est extrêmement rare. Et la preuve, c'est que, alors que les consommations de cannabis se sont massifiées, en réalité, la proportion de patients pour lesquels on fait un diagnostic de psychose ou de schizophrénie n'a pas bougé. Donc, si vous voulez, il s'agit de quelque chose qui existe. On n'a pas les moyens actuellement de repérer les personnes qui sont à risque d'entrer dans une schizophrénie. Et deux théories, je vais aller vite, mais deux théories s'opposent. L'une qui considère que le cannabis ne fait que favoriser une maladie mentale qui était, disons, émergente, ou en tout cas qui aurait pu se manifester dans d'autres circonstances. Et une autre qui est défendue par moins de monde, parce qu'à mon avis elle est moins crédible, et selon laquelle le cannabis à lui seul serait capable de provoquer des psychoses. Donc cette question existe, je pense qu'elle est très marginale, en tout cas elle n'est certainement pas suffisante pour qu'on reste dans la situation actuelle.
Bon, je continue à répercuter les arguments du père Fouettard, Gaspard Koenig. Il y a actuellement un spot de la sécurité routière qui dit que la consommation de cannabis est accidentogène, ce qui est évident. Si vous légalisez le cannabis, ne risquez-vous pas d'avoir des effets induits tels que ceci, le fait que de plus en plus d'individus conduisent en étant dans un état, vous voyez de quel état je veux parler?
Oui, bon, alors, d'abord, c'est évidemment parce qu'on légalise qu'on peut mettre en place des normes et des interdits. Je pense que sur les mineurs, il est extrêmement important de répéter l'interdiction totale, enfin en tout cas d'éviter que certains rentrent dans un cycle addictif qui effectivement est dramatique, parce que d'abord le mineur ne fait pas ses choix en pleine conscience, et qu'ensuite, mais ça vous en parlerez beaucoup mieux que moi, on considère que cannabis est nocif pour les cerveaux en formation. Donc jusqu'à quel âge? Est-ce que c'est 18, 21 ans, etc.? C'est là que est le bon débat, je dirais. Ensuite, évidemment qu'il doit être interdit au volant. Mais vous pouvez d'autant mieux interdire quelque chose dans des cas particuliers, comme la conduite, que vous l'avez légalisé en règle générale et que donc les gens peuvent vraiment distinguer le bon usage du mauvais usage, au lieu d'en faire un usage un peu constant, qui étant de toute façon, aujourd'hui comme il est de toute façon interdit, vous avez une continuité dans la transgression de la loi. Alors que là, vous pouvez distinguer ce qui relève de l'interdit et ce qui est permis. La vraie question sur la conduite, c'est celle de la détection, puisque techniquement, il est très facile de détecter celui qui a bu en faisant souffler dans un ballon. Pour le cannabis, c'est un peu plus compliqué parce que la substance met plus de temps à agir dans le sang, etc. Donc, Mais il y a des innovations techniques qui permettent d'essayer de corriger ça et qu'on expérimente dans certains États. Et je suis certain qu'on trouvera une solution. Donc il y a des problèmes, mais c'est des problèmes, vous voyez, qui se discutent sur l'âge de la légalisation, sur le contrôle routier.
Bertrand Lebeau-Lebovici, justement, est-ce qu'on a aujourd'hui une bonne connaissance des effets que le cannabis peut avoir sur le cerveau en formation, à partir de quel âge il serait plus inoffensif d'en consommer, selon vous ?
C'est une question qui est compliquée. Ce qui est certain, pardon, je vais me répéter, mais ce qui est certain, c'est que le fait que des très jeunes gens se mettent à consommer de manière régulière et parfois lourde du cannabis, ça n'est pas une bonne idée, ne fût-ce que parce que si le cannabis n'empêche pas de créer, Moreno a inventé la carte à puce après avoir fumé un joint, il l'a toujours répété, si elle favorise même les mouvements répétitifs, le cannabis ne favorise pas le fait d'engrammer, d'apprendre de nouvelles informations. Et donc de ce point de vue-là, il y a un vrai problème avec la vie scolaire, avec le fait d'être un étudiant ou un élève.
Mais justement, est-ce que ça n'est pas dans ce cas-là une pierre dans le jardin de ceux qui veulent légaliser cette drogue, tout simplement parce que quand vous interdisez, il y a quand même un poids symbolique qui peut, disons, inciter certains jeunes à ne pas en consommer.
Oui, si vous voulez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la situation suivante. Il y a eu une massification tout à fait incroyable des consommations depuis 10 ou 15 ans. Et il y a un très grand nombre de jeunes gens qui consomment. Donc, il est certain que un des objectifs, et il me semble que la légalisation des drogues le permet beaucoup mieux de la prohibition, c'est de dépenser une partie de l'argent dans la prévention et dans le soin pour diminuer autant qu'il est possible les consommations précoces. Pas simplement de cannabis d'ailleurs, mais aussi de tabac, d'alcool ou d'autres substances.
Justement, après avoir fustigé le libéralisme, je vais me convertir au libéralisme pour vous embêter, Gaspard Koenig. Si vous êtes favorable au cannabis, oui, du point de vue donc du droit des individus, pourquoi, oui, vous arrêter en si bon chemin? Pourquoi, oui, aussi ne pas autoriser la cocaïne, l'héroïne? Oui. Après tout, ce sont des décisions individuelles.
Oui. Oui, alors là j'aimerais reprendre un peu le John Stuart Mill dont nous parlions, puisque quelques pages après ce passage sur la légalisation des drogues, John Stuart Mill a une réflexion extrêmement intéressante sur la liberté de se vendre soi-même en esclave. Il dit finalement, si tout est basé sur le consentement, est-ce que je peux moi-même abdiquer mon libre-arbitre et devenir esclave? Et il répond non en disant, finalement c'est le libre-arbitre qui me permet de conclure le contrat d'esclavage. Et donc, le moment où je le signe, je perds la capacité de le signer. Et donc, je ne peux pas perdre ce qui est au fondement même de ma liberté de choisir. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on applique ça aux drogues, faisons une expérience de pensée. Imaginons une drogue qui, à la première consommation, vous rende dépendant à vie, sans jamais pouvoir vous arrêter. À ce moment-là, cette drogue, pour moi, correspond à un contrat d'esclavage. Vous devenez esclave, vous abdiquez pour toujours votre capacité de choix. Et donc, pour cette raison que le contrat d'esclavage n'est pas valide, y compris en société libérale, je pense qu'une drogue à 100% addictive, théorique, je ne sais pas si ça existe vraiment, à part l'air qu'on respire peut-être, devrait être prohibée. Et que du coup, finalement, l'intensité de prohibition devrait logiquement dépendre du degré d'addictivité, si je puis dire. Mais cela étant dit, je pense qu'effectivement, et pour en avoir parlé à d'autres collègues, enfin de certains de vos collègues addictologues, y compris sur l'héroïne et la cocaïne, qui sont évidemment des drogues, surtout pour l'héroïne, beaucoup plus dangereuses et addictives que le cannabis, je pense qu'on ne peut bien prévenir que ce qu'on peut voir, et que d'un pur point de vue de santé publique, la légalisation se discute de la même manière que sur le cannabis.
Et alors justement, dans le domaine des drogues, il y a une révolution, si j'ose m'exprimer ainsi, aux États-Unis, en tout cas une consommation de plus en plus forte d'opiacés. Expliquez-nous ce que sont ces opiacés, Bertrand Lebeau-Lebovici, et dans quelle mesure on a affaire à ce qui est considéré comme une épidémie de santé publique.
Oui, une épidémie d'overdose. Je vais essayer d'aller vite, mais c'est compliqué. Les choses commencent par un changement très profond dans la conception que nos sociétés se font de la douleur. À un moment, on considère qu'il n'est plus normal qu'une femme enceinte souffre nécessairement lorsqu'elle accouche, qu'un enfant qui souffre sa douleur soit méprisé, ou que quelqu'un qui a un cancer et qui souffre, etc., ne soit pas soulagé. Il s'avère qu'aux États-Unis, et d'une certaine manière, ça pose aussi la question des limites du libéralisme, certaines sociétés pharmaceutiques se sont lancées à corps perdu dans la promotion d'un certain nombre de substances, et en particulier l'une d'entre elles, qui s'appelle l'oxycodone, son nom commercial c'est l'oxycontin, qui a été vraiment promu, y compris avec des moyens publicitaires qui n'existent pas en Europe. Aux États-Unis, on a le droit de faire de la publicité pour des médicaments sur prescription auprès du grand public. Bref, c'est l'offre sur le marché légal qui a d'abord explosé. Ensuite, on a pris des mesures pour calmer le jeu. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens sont passés sur le marché clandestin. Et sur le marché clandestin, il s'est passé quelque chose de tout à fait dramatique. C'est que, en particulier, les cartels mexicains qui fabriquent de l'héroïne ont coupé cette héroïne avec un opiacé, un opioïde, comme on dit, c'est-à-dire un opiacé de synthèse surpuissant qui s'appelle le fentanyl, ou plutôt les fentanyls. Alors, pour vous donner une idée, le fentanyl, qui est par ailleurs une substance qu'on utilise encore en anesthésiologie, le fentanyl a un pouvoir contre la douleur qui est 100 fois celui de la morphine. Et le carfentanil, qui est le plus puissant des opiacés que l'homme ait jamais produit, qui d'ailleurs n'a pas d'indication en médecine humaine, uniquement en médecine vétérinaire pour endormir des éléphants, le carfentanil est 10 000, je dis bien 10 000 fois plus puissant par ses propriétés antidouleurs que la morphine. Donc si vous voulez, là il y a une rupture, on a affaire à... Et en plus, on a affaire à des substances pour lesquelles les précurseurs sont relativement faciles à trouver et la synthèse relativement facile à faire. Donc la tentation, et ça si vous permettez de le faire remarquer, c'est ce qu'on appelle la loi des reins de la prohibition. La loi des reins de la prohibition, c'est les substances les plus puissantes dans le minimum de volume. C'est ce qui s'était passé pendant la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Plus de bière, plus de vin, plus de cidre, exclusivement des alcools distillés. Là, c'est la même chose. On a affaire à une substance surpuissante, dans un tout petit volume, relativement facile à faire, et la tentation est irrésistible. Et là, à partir de 2011-2012, les overdoses ont explosé.
Elles provoquent quels effets ?
Vous parlez du fentanyl ? Alors écoutez, les fentanyls, ce sont des substances qui sont moins euphorisantes, comme on dit, que l'oxycontin, hein, l'oxycodone, le produit qui a fait démarrer toute cette affaire. Ce qu'on a oublié de dire, puisque Gaspard Koenig faisait référence à John Stuart Mill et au fait que les personnes doivent être informées, ce qu'on leur avait pas dit, ou plutôt on leur a menti, voilà, en leur cachant le fait que l'oxycodone était une substance extrêmement délicieuse, extrêmement euphorisante, avec des risques d'addiction, et on leur a dit « c'est une substance qui ne peut provoquer ni overdose, ni dépendance physique ». Donc là, il y a eu un mensonge évident de la part des labos. Mais si vous prenez les fentanyls, ce sont des substances qui peuvent être très agréables lorsqu'on est amateur d'opiacés.
Dans ce contexte-là, quand même, Gaspard Koenig, si on essaye de voir ces questions d'addiction, puisqu'on voit bien que là, ce qui est en jeu, c'est le libre-arbitre avec des substances qui sont plus puissantes que votre volonté et qui donc vous rendent esclaves, pour reprendre la métaphore de John Stuart Mill. Est-ce qu'on n'a pas l'explication aussi de la culture française, avec un État qui est plus paternaliste que d'autres États, qui vous fait boire du lait à certaines époques, qui considère que certaines substances doivent être prohibées? Est-ce qu'il n'y a pas aussi les limites d'une pensée libérale, une pensée libérale qui finalement n'arrive pas à savoir quand le libre arbitre de l'individu n'est plus véritablement assuré, puisque on sait bien qu'il y a des gens qui consomment tellement de cannabis que leur libre arbitre n'est pas préservé, et Bertrand Lebeau n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord. Vous aurez la parole dans quelques instants.
Gaspard Koenig. D'abord, sur l'exemple américain est un bon exemple de ce que l'État ne doit pas faire, puisque d'un côté, l'État prohibe une substance qui est quand même culturellement connue par l'humanité depuis 2 millénaires, qui est le cannabis, qui est maîtrisé, je dirais, par l'évolution sociale même. Et de l'autre côté...
Mais vous dites ça tranquillement, je n'en suis pas si certain.
Et de l'autre côté... en tout cas, c'est une substance qu'on connaît depuis 2500 ans. Les Chinois ont largement commencé... c'est une substance dont tout le monde a entendu parler. C'est une substance qui a été largement utilisée, discutée, et fait l'objet de 1000 livres et considérations dans les années 60. Donc c'est quelque chose qu'on a quand même appris à maîtriser. Et tout le monde sait ce que c'est qu'un joint. Et un quart des Français ont essayé. Et donc c'est un bon exemple pour revenir là, que l'État américain d'un côté prohibe quelque chose qui fait qui quand même correspond à une sorte de, une forme de contrôle social, de d'ordre spontané assez sain, et de l'autre côté encourage via les cartels pharmaceutiques, sans informer les consommateurs, la production de substances qui alors là sont complètement nouvelles et que personne ne maîtrise, et sur lesquelles les gens ne sont pas ou sont mal ou informés, voire désinformés, et qui ensuite dit « Ah mon Dieu, c'est une crise, il faut lutter contre les drogues », alors que c'est des drogues qu'il a lui-même encouragé à produire. Donc, si on veut un exemple du rôle de l'État dans les drogues, c'est exactement l'inverse. C'est un État qui n'encourage pas la production, s'assure que l'information soit disponible, et qui, encore une fois, pour les drogues ultra-addictives et pour les raisons du contrat d'esclavage que nous avons évoqué précédemment, peut ultimement intervenir. Et enfin, qui a aussi un devoir de prévention ou de réhabilitation. Et ce qu'on a vu au Colorado, c'est que les gens se font davantage soigner quand ils ont des problèmes d'addiction très forts, parce que maintenant que c'est légal, ils peuvent aller à l'hôpital, tout simplement, sans avoir peur de se faire prendre par la police ou sans avoir peur d'être soupçonnés par les autorités parce qu'ils ont fait quelque chose d'illégal. Donc à partir du moment où c'est légal, vous pouvez aussi plus facilement aller entrer dans un processus de réhabilitation.
Bertrand Lebeau-Lebovici, tout à l'heure vous faisiez la grimace quand je parlais de personnes qui étaient sous le joug du cannabis.
Non, je faisais la grimace parce qu'on venait de parler de l'oxycontin et du fentanyl qui sont effectivement des substances hautement problématiques. Et donc le fait qu'on soit repassé au cannabis, c'est ça qui m'a fait grimacer.
Mais pour le coup, pour l'addictologue que vous êtes, il est évident que le libre arbitre des individus est soumis à plus rude épreuve avec donc ces drogues qui sont des médicaments détournés plutôt qu'avec d'autres substances comme par exemple le cannabis.
Je vais vous raconter une histoire. J'ai vu à la télévision, comme beaucoup de Français, le témoignage d'une jeune femme, d'une femme d'une quarantaine d'années, qui a perdu son fils, qui est mort d'une overdose de fentanyl. Probablement d'ailleurs du fentanyl pharmaceutique détourné sur le marché clandestin. Et vous savez comment cette histoire a commencé? Elle a commencé parce que ce garçon consommait du cannabis. Peut-être qu'il en consommait trop d'ailleurs, que sa mère était inquiète parce que ses résultats scolaires fléchissaient, qu'il est allé voir un médecin que je ne condamne pas, mais malheureusement les médecins ne sont pas toujours bien informés, et que ce médecin lui a prescrit ce qu'on appelle une benzodiazépine, c'est-à-dire du Valium, du Tranxène, du Xanax, des substances qui ont été longtemps prescrites par les médecins comme des cachous. Il s'avère que les benzodiazépines sont beaucoup plus dangereuses que le cannabis et qu'à partir de ce moment-là, ce garçon a commencé à abuser de ce médicament et à en devenir lourdement dépendant.
Dans ce contexte-là, justement, pardonnez-moi, qu'est-ce que ça veut dire « plus dangereuse » ?
Bah écoutez, la question de la dangerosité, elle est vraiment au cœur des classifications qui ont été faites. Les deux dernières, c'est celle du professeur Rock, qui avait été demandé par Bernard Kouchner en 98, qui s'appelle d'ailleurs, c'est le rapport sur la dangerosité des drogues. Et le deuxième rapport, c'est celui d'un personnage tout à fait extraordinaire, me semble-t-il, qui est un des plus grands pharmacologues européens, qui s'appelle David Nutt, qui est professeur à l'Imperial College de Londres, et qui avait eu la maladresse, alors qu'il était le responsable de l'équivalent de la 1000 DK en Angleterre, de dire qu'il était plus dangereux de faire de l'équitation pendant un week-end que de consommer de l'ecstasy, et il avait été immédiatement remercié.
Mais en tout cas...
Oui, absolument. Il vaut peut-être mieux ne pas faire les deux en même temps. Non, ce que je veux dire, c'est que la question de la dangerosité, elle est discutée parce que on peut, par exemple, considérer que la cocaïne, c'est plus dangereux que l'héroïne. Mais si vous me permettez juste ce point, il y a des programmes de prescription d'héroïne en Europe. Sauf que les gens viennent tous les jours, viennent consommer sur place, et que donc il n'y a pas de diversion sur le marché noir. Ouais. Quant à la feuille de coca, à mon avis, elle devrait être légalisée.
C'est dommage de me lâcher ça juste au moment où il faut qu'on se sépare, parce qu'on va être obligé de...
La feuille de coca, on la mâche au Pérou depuis des siècles, parce que c'est un remède contre le mal de l'altitude. Donc encore une fois, les drogues, les gens se les approprient au cours des millénaires. C'est des longs processus.
Il y a trois personnes, en tout cas, qui ont pris beaucoup de notes suite à ce que vous avez dit. Ce sont mes camarades Aurélien Bélanger, Mathilde Serrel et Nicolas Martin qui viennent d'entrer dans ce studio. Merci à vous deux, Bertrand Lebeau-Lebovici. Vous êtes médecin addictologue et Gaspard Koenig. Vous publiez vos voyages, Voyages d'un philosophe au pays des libertés. C'est aux éditions de l'Observatoire.